Bonjour, c'est Marie. Bienvenue dans Minute Sexo sur Radio Gamozo. Aujourd'hui, dans Minute Sexo, on s'attaque à une idée reçue. Non, le sexe n'est pas le moteur de tout le monde. Dans une société qui nous bombarde d'injonctions à la performance et au désir, certains ne ressentent simplement aucune attraction sexuelle. C'est ce qu'on appellerait l'asexualité, ce que nous allons vérifier avec Marie Blondet, notre sexothérapeute. Bonjour Marie.
Bonjour Lia.
Alors on va essayer de comprendre ensemble cette orientation invisible qui concerne pourtant des millions de personnes. Alors Marie, avant qu'on entre dans le vif du sujet, il est important de contextualiser, tu me reprends si je me trompe, des chercheurs comme Anthony Bogaert, qui est la référence sur le sujet, estiment qu'environ 1% de la population mondiale est asexuelle. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle de la France, ça représente plus de 600 000 personnes. Mais déjà, l'asexualité, Marie, qu'est-ce que c'est ?
L'asexualité, c'est quand il n'y a aucune attirance sexuelle pour d'autres personnes. Donc, c'est un sujet assez complexe à définir. Il faut savoir qu'au tout début, les personnes ayant peu ou pas d'attirance sexuelle, elles étaient vues comme un trouble ou une anomalie.
Justement, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la sexualité, ce n'est ni une maladie, ni un blocage lié à un trauma, et encore moins un choix religieux comme l'abstinence, par exemple. C'est une orientation sexuelle à part entière. Quand est-ce que ça a commencé à se faire connaître, la sexualité ?
Alors, il n'y a pas eu une découverte à une date vraiment précise, oui. Parce que c'est plutôt un mouvement, un courant. Le terme asexualité pourrait être utilisé comme orientation sexuelle, comme tu viens de le dire, a surtout été utilisé à partir des années 1970-1990, donc c'est assez récent, avec les mouvements LGBTQIA+. Et il y a eu un tournant en 2001 avec David G. Et cette communauté, elle joue un rôle énorme dans la visibilité et dans la reconnaissance de la sexualité. Parce que souvent, les gens qui sont asexuels se sentent en dehors de la normalité, entre guillemets.
Alors, chimiquement, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau, dans un corps, quand on est asexuel ?
Aujourd'hui, la science, elle n'a rien prouvé, parce que l'asexualité, c'est avant tout une variation naturelle de l'orientation sexuelle. Donc, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un déséquilibre hormonal, ce n'est pas un déséquilibre ou un dysfonctionnement cérébral. C'est comme ça, ça se sent à l'intérieur de soi. Par contre, scientifiquement, on peut rien montrer.
Comment est-ce que tu aides tes patients à différencier une baisse de libido passagère d'une véritable identité asexuelle ?
Alors, la différence, en fait, elle peut pas se faire en une simple question. Du coup, en accompagnement, moi, je vais explorer surtout le vécu global de la personne dans le temps, sans chercher à lui coller une étiquette trop vite. Et puis, du coup, je vais aller explorer l'histoire du désir dans le temps. Est-ce qu'elle a déjà ressenti une attirance sexuelle spontanée, par exemple, auparavant ? Est-ce que ça a déjà changé ? Je vais aller explorer la présence de souffrance ou non, parce que ça, c'est un indicateur. Je vais aussi, on va dire, différencier attirance, libido et capacité physique. Comment la personne, elle a cette attirance ou non sexuelle ? Elle a une attirance romantique ? Elle a de l'excitation ou pas ? Elle a encore des fantasmes ou non ? Si elle tombe amoureuse ou pas ? Enfin, tout ça. Je vérifie aussi le contexte médical et psychologique, parce que tout ça, ça peut varier avec les humeurs, l'anxiété, l'épuisement, les hormones, les médicaments. Et puis, je laisse aussi de la place au non-savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter et qui ont besoin de savoir, d'avoir des réponses à leurs questions. Et des fois, c'est pas forcément évident. Donc, mon rôle, c'est pas de décider à la place de la personne, ni de la convaincre, mais c'est plutôt de l'aider à trouver une certaine stabilité, d'aller voir ce qui fluctue ou non, ce qui appartient à son identité profonde ou pas. Et du coup, il y a certaines personnes qui vont finir par se reconnaître dans la sexualité, d'autres qui découvrent plutôt un épuisement émotionnel ou une déconnexion corporelle suite à un trauma ou tout simplement une phase temporaire de baisse de désir comme je peux le constater quotidiennement au cabinet.
Comment ça marche l'amour quand on est en couple, par exemple, du coup, sans le passage à l'acte.
Alors là, la question, elle me fait rire parce que, en fait, le passage à l'acte, ça veut dire quoi ? Souvent, quand sans passage à l'acte, il y a d'autres formes de liens qui arrivent, des autres formes d'attachement, d'intimité. Et là, on va être dans une relation donc sans sexualité, avec de la complicité, avec de la sécurité émotionnelle, avec de la tendresse, avec des projets communs, avec de la présence, des gestes affectueux. Et certaines personnes ressentent une forte attirance romantique sans ressentir l'attirance sexuelle, et c'est ça en fait qui se passe. Et elles peuvent simplement avoir envie d'aimer, d'être en couple, de partager leur quotidien, d'embrasser, de se câliner, mais sans ressentir le besoin ou l'envie d'un rapport sexuel. Il y a d'autres couples qui, volontairement ou non, dans une relation peu sexualisée ou non sexualisée, pour des raisons de santé, pour des raisons de spiritualité, d'âge, de traumatismes, vont se retrouver aussi là-dedans.
Alors, est-ce que c'est difficile de dire aujourd'hui « je suis asexuelle » ?
Oui, moi je le rencontre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est dans une société où la sexualité a une part importante, parce que dans beaucoup de cultures, on associe aussi l'amour égale désir sexuel, couple réussi égale sexualité, absence de désir égale problème à résoudre. Et du coup, ces personnes asexuelles, elles peuvent parfois être perçues comme froides, distantes, bloquées, anormales, cassées. Là, vous ne me voyez pas, mais j'ai mis des guillemets à tous ces petits mots-là, parce que c'est des mots que je n'utilise pas, parce que certains entendent aussi que t'as pas rencontré la bonne personne, t'es traumatisé sans le savoir, t'inquiète, ça va passer. Sauf que moi, en accompagnement, je vais plutôt aller explorer ben, qu'est-ce qui est différent chez toi et en quoi ça t'affecte. Je vais permettre à la personne de ne pas se sentir seule, de ne pas se sentir défectueuse, de lui montrer qu'il existe d'autres façons d'aimer et d'autres façons de créer du lien. Et ça, ça va permettre de mieux comprendre son propre fonctionnement, sortir de la honte et construire des relations cohérentes avec ce qu'elle ressent en fait vraiment.
Alors comment on fait quand on est en couple avec quelqu'un qui a beaucoup de désirs alors que nous, pas du tout?
Alors ces couples-là, ils sont appelés parfois couples mixtes quand il y a un des deux partenaires qui vit la sexualité et l'autre non. Ce qui va être le point majeur dans ce type de couple, c'est encore une fois la communication. C'est qu'est-ce qu'on met derrière cette différence. Souvent, le partenaire qui a plus de désirs, il peut parfois ressentir du rejet, de l'insécurité, peur de ne plus être aimé ou être désiré. Et la personne asexuelle, au contraire, elle va ressentir de la pression, de la culpabilité, le fait de devoir se forcer, de jamais être assez. Et le premier travail qui est fait, c'est « tu ne veux pas de sexe, donc tu ne m'aimes pas » ou « tu as pas de désir, donc tu ne me désires pas, tu ne m'aimes pas ». Mais ces couples-là, on va aller chercher que représente la sexualité pour chacun. Quelle forme d'intimité aussi est possible dans ce nouveau schéma? Où sont les limites? Accepter qu'il n'existe pas une solution toute faite, une solution parfaite, mais c'est une solution qui appartient à chacun des couples.
Petite idée reçue peut-être. Alors, est-ce qu'on est asexuel ou est-ce que ça peut arriver au cours de la vie?
Ben, les deux sont justes, parce que aujourd'hui la science, elle nous montre pas que voilà, un bébé qui vient d'arriver, il est asexuel. Non. On peut devenir asexuel, moi je le vois suite à des traumas, suite à des dépressions, suite à des burn-out, suite à des événements de vie qui font que un changement hormonal. Du coup, cette asexualité, elle peut être temporaire ou alors elle peut nous suivre jusqu'à la fin de notre vie.
Alors, on vit dans une société quand même hyper sexualisée. Est-ce que tu penses que cette pression rend la vie des asexuels plus difficile ou au contraire, est-ce que ça peut les aider à plus rapidement trouver leur place, à s'identifier?
Je pense que les deux peuvent exister en même temps, parce que aujourd'hui la sexualité, elle est souvent présentée comme preuve d'amour, indispensable à la vie, signe de bonne santé, élément normal entre guillemets à la vie d'adulte. Mmh. On retrouve beaucoup le message, dans les réseaux sociaux, sur les films, sur les pubs. Du coup, certaines personnes asexuelles grandissent avec l'idée: je devrais sentir ça, mais c'est pas mon cas. Du coup, elles peuvent avoir honte, le sentiment d'être anormale, la difficulté de poser des limites. Et certaines racontent avoir longtemps joué un rôle pour faire semblant d'être intéressée, entrer dans des relations sexuelles parce qu'il faut, je dois. Mais paradoxalement, cette visibilité permanente de la sexualité, elle peut aussi accélérer certaines prises de conscience. Parce que lorsqu'une personne, elle constate, tout le monde semble vivre quelque chose que moi, je ressens pas. Bah oui, mais et alors ? Encore une fois, moi, quand ils arrivent en cabinet en me disant « Mais Marie, c'est pas normal, je suis comme ça, moi, je ressens pas ça, j'en parle et je vois bien que dans mon entourage, c'est complètement différent. » Ben, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas de répondre à une sexualité ou d'une asexualité, mais c'est de se faire confiance à soi et c'est surtout de se respecter.
Quelle est l'idée reçue, le cliché que tu entends le plus souvent et que tu aimerais déconstruire aujourd'hui sur la sexualité ?
Celui que j'entends le plus souvent, je crois, c'est « si t'as pas de désir, c'est qu'il y a un problème à régler ». Et ça... où le désir, ça devrait forcément être là. Alors, ce qui mérite d'être déconstruit ici, c'est l'idée qu'il existerait une norme unique de désir sexuel et que tout écart serait un dysfonctionnement. Or, il n'existe aucune norme, chacun est différent, chaque couple est différent. Et ce qui serait génial, c'est que la comparaison en permanence, elle soit cassée, qu'on arrête toutes ces injonctions, qu'on arrête toujours de se réparer, de vouloir faire comme. Et le soulagement, il arrive quand la personne, elle passe de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à « comment je fonctionne, moi, réellement ?» Et c'est là-dessus que je vais travailler, en fait, avec la personne que j'accompagne.
Est-ce qu'on peut être heureux, équilibré, sans avoir de rapport sexuel ?
Eh ben oui, on peut être heureux, être épanoui, stable, sans avoir de rapport sexuel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, une vie équilibrée et heureuse, ben, ça veut dire quoi ? Je pense que chacun a sa propre définition. Et du coup, la sexuelle, eh ben, il a sa propre définition aussi.
Merci beaucoup, Marie, pour ces éclairages. Ce qu'on retient, c'est que la sexualité n'est pas un problème à résoudre, mais une identité à respecter. L'important, c'est d'être en accord avec son propre curseur de désir sans se comparer aux autres. Comme à chaque fois, merci beaucoup Marie.
Merci beaucoup Lia.
À bientôt.
À bientôt.